Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur Radio-La, radio locale d'intérêt général et pour cet été, radio à la nuit qui tombe. Vous êtes à l'écoute des balades du soir. Je suis Marie Kévin et nous sommes ensemble pour 40 minutes, chaussez vos babouches, brodez des toiles et en route. Dans cette émission aux couleurs du soleil qui s'écroule et à l'odeur de foin coupé, nous prenons le temps de questionner ceux qui animent, celles et ceux qui font, qui s'insurgent, se révoltent et transforment, ceux et celles qui pensent et qui se questionnent surtout, ceux qui s'autorisent, ceux qui essaient. D'où leur vient cet engagement? Comment se sont produits leurs combats? Comment ont-ils choisi de les vivre et avec qui? Radio-La prend l'antenne pour questionner l'engagement et les chemins de vie de personnalités du territoire. Ce soir, j'ai la joie d'échanger avec vous, Chloé Peterman, des luttes du Larzac aux occupations No Bunker de Genève, en passant par le refuge de Briançon et une pipeline en Ouganda, de l'art de la céramique à celui de monter une coopérative immobilière, votre route est là et vous avez accepté de nous indiquer l'itinéraire. Chloé Peterman, bonjour.
Bonjour.
J'aimerais que l'on commence, si vous voulez bien, par votre enfance. Où est-ce que vous êtes née et dans quelle famille avez-vous grandi ?
Je suis née en région bordelaise, dans le sud Gironde, et de parents un peu intello de gauche et très militants, surtout militants écologistes. Mes parents se sont rencontrés dans un groupe anti-nucléaire. Je dis intello, même si c'est un terme qui est un peu galvaudé maintenant, mais en tout cas, il y avait vraiment dans ma famille ce côté, effectivement, militant, à aller en manif, à aller à avoir quelque chose à dire, mais qui était doublé de beaucoup de livres à la maison, une exigence quand même sur se débrouiller pas trop mal à l'école. Enfin voilà, c'était une construction de pensée.
Qu'est-ce qu'ils faisaient dans la vie ?
Mon père, en fait, mes parents, quand ils se sont mis ensemble, étaient maraîchers bio, à l'époque où le bio n'était pas du tout ce qu'il est aujourd'hui. Donc, ils livraient à l'époque les deux seuls restaurants bio de la ville de Bordeaux. Hein. Donc, voilà, c'était tout petit comme marché à l'époque. C'était le début, entre guillemets, du bio. Ça a été quand même très, très dur économiquement. Et finalement, mon père a monté sa boîte, puisqu'il était ingénieur en électricité. Donc, il a monté une petite PME. Ma maman faisait la compta de cette entreprise, sachant que ma mère, elle avait une formation de prof, mais qu'elle n'a pas souhaité continuer.
Et quel genre de graines ils ont planté en vous à ce moment-là ?
C'est clairement le... Enfin voilà, moi j'étais... Les week-ends, on allait dans des manifs, on allait sur des événements politiques ou militants. C'était aussi avoir dans la semaine... avoir cette habitude que mes parents, ils avaient tout le temps des réunions, que le soir, ils allaient être dans des endroits ou bien ils recevaient des amis. C'est ça aussi, c'est que c'est pas seulement être dans des groupes politiques, c'est que la plupart de nos amis de famille étaient des gens aussi impliqués et engagés. Soit dans la gauche, soit dans l'écologie, souvent dans les deux. Par exemple, j'ai vraiment le souvenir du premier squat dans lequel je suis allée. Et ce n'était pas les squats des villes à l'époque, c'était une maison squattée au fin fond des Landes où mon père m'avait emmenée. Mon père n'est plus de ce monde, donc on peut le dire. Il avait, parce qu'il était électricien, il les avait branchés. Donc voilà, c'est quelque chose de tout à fait illégal, effectivement. Mais je me souviens, mais très très précisément, pour moi, c'était vraiment un truc bizarre de se dire, ok, ces gens sont rentrés dans cette maison, mais pourquoi ? Je me souviens très bien qu'il y avait des très bonnes crêpes au citron, d'ailleurs. Mais voilà, c'est un bain, quoi. Et puis, bien sûr, les bouquins qui vont avec, les affiches qui vont avec. Souvent, quand je rentre à la maison, je regarde le bouquin, par exemple, qui a été fait. Il y a tout un livre qui a été fait de l'iconographie des luttes du Larzac, que j'adore, ce livre est trop beau. Il y avait des affiches incroyables à l'époque, je trouve, et qui est des fois qui étaient. À l'époque, il n'y avait pas l'IA, mais même il y avait, c'était souvent des gens qui dessinaient des choses. Je trouve qu'elles étaient incroyables. Après, ils avaient les slogans pour aller avec aussi. Mais voilà, c'était ça un peu notre quotidien, ma sœur et moi. Et d'ailleurs, j'ai reçu cette semaine, on a un ami qui nous a renvoyé des photos là, un monsieur qui était photographe et qui documentait un peu les mouvements de l'époque. Il nous a envoyé des photos de quand j'avais, je pense, 9-10 ans. D'une manif contre les essais nucléaires. C'était incroyable de revoir ces photos noir et blanc où on était toutes petites et tout. Ben voilà, ça ressemblait beaucoup à ça, mon enfance, ouais.
Incroyable. Et à quel moment vous avez choisi, vous, de vous engager, vous aussi, de plus participer aux manifestations parce que vous y emmenez, mais de choisir d'y aller ?
Ben oui, c'est ça aussi, c'est ça qui est intéressant, c'est quand on commence un peu à s'auto-organiser. Alors, je me souviens de certaines choses quand j'étais au lycée, mais là, c'était vraiment des petites choses comme organiser au sein du lycée une récolte de nourriture pour le Resto du Cœur. Enfin voilà, c'est des tout petits trucs, mais où il y a déjà cette idée quand même de solidarité. Et puis de, je me souviens d'avoir, c'était à l'époque où dans les lycées, il y avait encore un micro pour que la CPE elle puisse parler dans la cour. Je sais pas si ça existe toujours, mais où du coup on m'avait autorisé à parler pour dire vous pouvez venir déposer des boîtes de conserve de telle heure à telle heure. Bah voilà, c'est des trucs en fait qui nous forgent. Où on se dit bah en fait on porte une voix et peut-être il va y avoir une réponse. Et
c'est
un truc après qui
c'est
une place qu'on prend. Ouais, ouais, tout à fait. Donc ça c'était le tout début au lycée. Après ça a vraiment été quand je suis partie faire mes études d'art en Suisse, déjà un peu à Nice, dans les mouvements notamment de ATTAC, donc anti-capitaliste, mouvement altermondialiste. Et après, quand j'étais à Genève, on a monté tout un mouvement avec les étudiants de la section céramique, parce que la section céramique était frappée de fermeture. Et du coup, il y a eu tout un mouvement des étudiants de la section céramique, où on a fait des actions... assez symbolique et assez incroyable. Là, c'est aussi le côté... quand le militantisme se mixe avec de l'art, en général, il y a pas mal d'idées, on va dire, de choses assez visuelles et assez symboliques. On avait fait marcher toute la direction de notre école pour rentrer dans l'AG où ils allaient nous annoncer la fermeture officielle. Et on avait rempli de tessons de céramique le couloir pour y accéder. Ouais. Du coup, les gens devaient marcher sur ce truc qui, du coup, était quand même super glissant. Donc, on était autour avec une aide d'honneur à tenir les gens. Mais ils devaient marcher comme ça sur des tessons. Bon, voilà, on avait quelques idées.
À quel moment est-ce que vous rencontrez ce milieu-là de la céramique ?
Ah, ça, en tout cas, la terre, j'étais vraiment petite. J'étais vraiment pré-ado quand j'ai commencé à faire du modelage. Parce que bah voilà, mes parents et notamment ma maman, elles nous ont vraiment amené cette fibre artistique. Moi, c'est vrai que j'étais de toute façon une gamine hyper bricoleuse. Mais disons que voilà, j'ai eu la chance d'avoir des parents qui ont nourri ça. Et du coup, ma maman m'avait inscrite dans une super école d'art plastique à Longon, près de chez nous. Et où j'ai commencé à faire du modelage, de la peinture aussi. Et après, la terre, c'est resté tout le temps. Notamment parce que j'ai fabriqué pendant très longtemps sur mon petit bureau en rentrant du collège des santons. Ça paraît très bizarre, mais c'est une réalité. C'est comme ça que j'ai vraiment que je me suis vraiment exprimée, que je me suis un peu affirmée avec la terre. Et après j'ai voulu apprendre le tournage, et c'est pour ça qu'après mon bac j'ai décidé de partir faire un CAP tournage en céramique pour vraiment me professionnaliser dans la poterie, quoi.
À Lausanne.
Ça, c'était la formation de tournage, c'est-à-dire le CAP tournage en céramique et le bac pro céramique. Je les ai fait dans le sud de la France, okay. À Antibes. Et après, je suis partie faire l'école d'art à Genève, qui était aussi une école d'art céramique, enfin une section céramique au sein d'une école d'art.
À quel moment est venue l'envie de se professionnaliser en disant là, je vais en faire mon métier ?
Bah, c'était déjà le cas en fait au lycée. En fait, au lycée, j'étais partagée entre vouloir continuer avec le théâtre. Je rêvais d'être comédienne. Voilà, je faisais beaucoup, beaucoup de théâtre. Et ça, c'est très lié aussi à l'engagement. Parce que je pense que ça, d'avoir été dans cet esprit de troupe et d'avoir été amenée à prendre la parole sur scène, voir qu'est-ce que c'est la force d'un groupe quand on est ensemble sur une scène, mais c'est un truc qui continue, je pense, vraiment à beaucoup m'aider dans l'engagement, de pas être forcément effrayée de parler devant un grand groupe. Voilà, c'est quelque chose qui est hyper formateur, je trouve, quand on est ado ou jeune. Et j'ai oublié la question.
À quel moment t'as décidé d'en faire ton métier?
Ah oui, voilà.
Terre.
Et donc, pendant mes années de lycée, seconde, première, c'est vraiment le moment où voilà, je me suis dit non, je vais plutôt aller vers la céramique. C'est vrai que mes parents m'ont plutôt poussé vers ça plutôt que vers le théâtre et le cinéma. Et bon, peut-être ils avaient raison. C'est vrai que c'est des métiers qui sont quand même déjà assez durs et puis assez impactants aussi personnellement. L'école d'art, même si on se dévoile, disons que c'est pas nous l'œuvre d'art, quoi. C'est produire quelque chose. Il y a une forme de distance quand même. Et à partir du moment où j'ai commencé à me former au tournage, enfin c'est parti complètement. Enfin voilà, ça m'a vraiment complètement plu, avec des parents hyper soutenants qui m'ont offert mon premier four. Enfin, j'avais un atelier aussi à la maison, donc ça s'arrêtait jamais en fait.
Et un jour, sur la route de votre atelier à Genève, vous voyez des gens qui occupent un bâtiment et vous décidez d'aller leur demander ce qu'ils font. C'est le mouvement No Bunker. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur ce mouvement ?
Ouais, tout à fait. Ça a été quelque chose qui a été assez fondateur. En Suisse, étant donné que c'est un pays neutre, pendant beaucoup d'années, je crois qu'aujourd'hui c'est différent, quand on construisait des bâtiments, notamment des bâtiments publics, il fallait qu'il y ait des abris anti-atomiques sous terre. De peur d'une bombe. Et en fait, ces lieux qui existent, du coup, sont utilisés à la fois pour des mouvements de troupes de l'armée, pour héberger les militaires, mais aussi pour héberger les personnes exilées en Suisse. Et à Genève, une année, il y a eu ce mouvement, j'ai re-regardé depuis, c'était en 2015, mouvement qui s'est intitulé No Bunker, où des personnes exilées ont dit « mais nous, on ne veut plus dormir dans ces trucs qui sont des caves, lumière allumée tout le temps, des lieux dont il y a eu des rapports hein, de médecins attestant que mettre des personnes notamment qui ont un syndrome post-traumatique suite à la migration, c'est vraiment pas une bonne idée dans un espace clos sans lumière naturelle. Enfin, c'est quand même assez affreux comme type de lieu. Et du coup, ces gens, ils se sont dit, bah, nous, on veut rester au niveau du sol, quoi, avec les Suisses. Et je trouvais ça génial comme symbolique. Et donc, ils ont occupé un lieu artistique dans Genève, le Grütli, qui est un lieu devant lequel je passais tous les jours, où j'allais au cinéma, où j'allais voir des pièces, de la danse, etc. Sauf que là, bah, c'était devenu une occupation, quoi. Donc des personnes avec des matelas dans les couloirs, une cuisine collective sur l'extérieur, sur le parvis, des AG tous les soirs avec les mouvements de gauche, les syndicats qui soutenaient aussi ces personnes, les mouvements de soutien aux travailleurs immigrés, etc. Et voilà, une fois je me suis arrêtée, notamment en donnant un coup de main à la cuisine, parce que c'est souvent comme ça, voilà. C'est une compétence qui n'est pas très compliquée à avoir. J'ai commencé à couper effectivement des oignons, ce qui est souvent le cas quand il y a des populations venues du continent africain. Et puis ça a commencé comme ça. Et ça m'a permis, ce mouvement-là, c'est vraiment les premières fois où j'ai rencontré, c'est-à-dire parlé avec des personnes en situation d'exil. Et ça, c'est fondateur. C'est-à-dire que c'est plus lire des articles ou des bouquins. C'est vraiment être en contact direct avec des personnes, avec aussi toute la complexité de comment on se positionne, c'est quoi sa posture. Parce que là, pour le coup, c'est vraiment... C'est pas qu'il y a une petite introduction sur c'est quoi être un bénévole social de l'accueil. Non, il n'y a rien du tout. Tu te démerdes. Les personnes, des fois, te demandent ton numéro. Tu deviens une personne aidante sans vraiment l'avoir demandé. Enfin, c'est assez complexe. Au début, là, à cette époque-là, j'étais vraiment très, très naïve sur tout ça. Mais du coup, au fil des lieux dans lesquels je me suis investie avec des personnes exilées, ben justement, j'ai beaucoup questionné cette question de la posture. Et c'est des choses que nous, maintenant, dans l'assaut, ici à Diolfi, qu'on essaye vraiment de mettre à profit. D'ailleurs, lundi soir, on a de nouveau là une formation sur la posture dans une assaut d'accueil avec nos bénévoles, puisque les premières personnes vont arriver. Et l'idée, c'est justement d'éviter de... Voilà, on va éviter la technique de « je te jette dans une piscine pour que tu apprennes à nager ». On va essayer d'amener quelques idées, quelques apports aussi en termes de psychologie, pour que les personnes soient un peu plus la tête sur les épaules et évitent aussi les gros écueils qui sont si faciles dans lesquels tomber.
Ça, c'est un moment qui était décisif pour vous, la naissance de votre engagement pour l'accueil et l'accompagnement des personnes en exil, qui s'est ensuite suivi d'autres expériences bénévoles d'accueil. Au refuge de Briançon, vous êtes aussi allée à Grande-Synthe à côté de Calais. Vous aviez besoin à ce moment-là de vous confronter, après cette première rencontre, d'aller au plus proche de cette réalité.
Mais en fait, c'est exactement ce qui se poursuit presque d'une certaine façon métaphoriquement avec le festival. C'est-à-dire qu'en fait, on rencontre des personnes à Genève, mais ça pourrait être n'importe où. Mais c'est en fait ces personnes-là, vu que ce sont des personnes exilées, elles ont fait tout un chemin. Elles sont pour arriver en Suisse, elles ont pu peut-être passer par l'Italie. C'est vrai qu'il y a pas mal de gens, la Suisse, ils passent par le Tessin, ils arrivent d'Italie. Mais en fait, il y en a plein, elles ont déjà fait tout un parcours potentiellement en France, elles ont pu passer soit par l'Espagne. Il y a toutes sortes de routes, et certaines vont, parce qu'elles sont déboutées typiquement de l'asile en Suisse, elles vont vouloir aller vers Calais. Donc, en fait, tous ces lieux, ils sont interconnectés par les personnes, de fait, et par les routes. Et donc, ça donne trop envie de savoir, en fait, de comprendre. Ces personnes, elles vont aussi vous parler des camps qu'elles ont vécu en Libye. Bon, voilà, ça, c'est un moment moins sympa. Mais en tout cas, c'est tous des mots qui vont, au fil des lieux dans lesquels je suis allée, tac, 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 tac. Il y a toutes des cartes comme ça qui se créent de chemin de personnes et où on a envie de... En tout cas, moi, c'est ça, vraiment ça qui m'a porté et qui a amené à la création du festival, c'est on a envie de comprendre en fait. On a envie de comprendre quelles sont les logiques, par où les gens passent, pourquoi ils sont partis de chez eux, est-ce que c'est différent d'un pays à un autre. Enfin voilà, c'est un monde qui s'ouvre quoi.
Et c'était. Quelles personnes ont été importantes, ont compté à ce moment-là?
Au moment de No Bunker, je me souviens qu'il y a un monsieur qui s'appelait Anouar, et ce monsieur, je crois bien qu'il était marocain. C'est un monsieur déjà qui avait bien la quarantaine. Ça, je me souviens vraiment de ce monsieur. Je me souviens que c'était une personne qui était très abîmée. et qui était débouté, et qui était grave en galère à Genève, que je voyais des fois aussi dans la ville. C'est des gens après qu'on, voilà, que des fois on perd de vue aussi parce que, et après il y a tout aussi les enjeux de genre qui se posent, puisque dans ces mouvements d'accueil il y a énormément de nanas, de femmes aidantes, et qu'en fait dans les personnes accueillies il n'y a pas du tout que des hommes, mais en fonction des lieux, notamment là dans ce lieu-là, c'était vraiment une occupation d'hommes. Mmh. Il n'y avait pas de femmes dans les personnes accueillies, si je me souviens bien. Donc il y a aussi, des fois, les hommes, ils souhaitent aussi une autre forme de relation que la relation d'aide. Et donc du coup, tu es obligé de prendre de la distance parce que ce n'est pas aider les personnes que d'entrer là-dedans. Des fois, je le voyais de loin dans Genève, mais je me souviens de lui. Et je me souviens aussi très très bien d'un homme qui venait du Nigeria, qui se faisait après appeler Prince, et j'ai toujours de ses nouvelles. Et les dernières fois qu'il m'a parlé, il était de nouveau en Libye, parce que ce monsieur, il a été renvoyé depuis l'Allemagne. Enfin bon, c'est des parcours, mais complètement hallucinants. Et il a repris pour la deuxième fois la route, et il est devenu papa en Libye. Voilà. Enfin, c'est des gens, oui, qui à la fois, on les a rencontrés en vrai, c'est-à-dire c'est des vraies personnes avec qui on a eu un lien, et en même temps, ils sont un point dans tous ces articles, ces bouquins auxquels moi je m'intéresse, et du coup ils entrent dans cette espèce d'immense fresque, quoi.
Et donc c'est d'abord par cette expérience militante que débute votre engagement aux côtés des personnes en exil, et puis vous décidez de vous professionnaliser avec une formation à Lyon.
Oui.
Et aujourd'hui vous êtes
directrice de l'association Passerelle.
De l'association Passerelle. Comment est-ce que vous avez vécu ce cheminement et à quel besoin ça répondait, notamment cette formation ?
Oui. Ah bah alors là, ça c'est clairement quand j'ai commencé à aller de façon un peu régulière au refuge solidaire de Briançon, qui est donc ce lieu qui est à la frontière, qui est côté français, mais juste derrière la frontière franco-italienne, et qui accueille les personnes qui ont traversé les Alpes de nuit ou de jour, souvent de nuit, et qu'on accueille pour quelques jours de repos. Et c'est un lieu, alors là on est typiquement dans un lieu d'accueil d'urgence, c'est-à-dire que les personnes ne sont pas censées s'installer, rester, elles sont censées pouvoir obtenir du soin si besoin, une explication de comment poursuivre, un coup de main, une orientation, et surtout de la bonne nourriture. C'est un lieu où on avait cette exigence et elle existe toujours, je sais parce que je suis restée très très en lien avec certaines personnes du refuge, où il y a cette exigence d'avoir une salade faite avec des légumes frais, un riz sauce et un dessert, quoi. Et c'est un truc qui est tenu comme ça jour après jour, et trois repas par jour pour les gens. Donc ça représente un travail, parce que c'est un lieu où des fois il y a, là la jauge maintenant est de 63 personnes, des fois elle est dépassée, donc ils trouvent des solutions, mais moi c'est un lieu où j'ai des fois été certains étés, il y avait 150 personnes qui vivaient dans cet endroit, genre dans les couloirs et tout. Enfin, c'est pas du tout que ça fait rêver ces conditions là mais ce que je veux dire c'est que c'est une logistique hallucinante de gérer un lieu comme celui là et sauf que on arrive là, on est plein de bonne volonté, on veut sauver toutes ces personnes, ce qui est pas une bonne idée, mais au début c'est ce qu'on veut, et on se retrouve à parler avec, moi j'étais au bureau d'accueil, et donc toute la journée on va recevoir des gens qui sont passés dans la nuit, et les recevoir chacun en entretien, et des fois ces entretiens un peu rapide, un peu simple. Tu viens d'où ? C'est quoi ton nom ? C'est quoi ton prénom ? Ça, c'est des informations qui, évidemment, sont confidentielles, que nous, on garde au sein du refuge. C'est plus pour des statistiques, c'est pas du tout, évidemment, pour la police, puisque c'est un lieu complètement non institutionnel, le refuge, et qui n'est pas financé par l'État. Mais on demande aux gens s'ils ont mal quelque part, s'ils ont besoin de voir un médecin. Et donc, ces entretiens qui peuvent avoir une forme de simplicité, un truc un peu rapide pour certaines personnes, et puis des fois, pas du tout, quoi. Des fois, il y a des gens qui s'effondrent devant vous, parce que rien que de leur demander « est-ce que t'as mal quelque part ?», ça va pas, quoi. Ou alors, des gens qui parlent très peu français, donc on trouve quelqu'un pour traduire, c'est compliqué. Je me souviens très bien de ce monsieur afghan qui j'ai demandé « mais est-ce que t'as mal quelque part ?». Il me dit « ah ouais, j'ai ce problème à la jambe », qui m'a levé son pantalon, mais il ne plaît, mais surinfecté, mais un truc. Et là, il faut être en capacité de dire, et ça, le refuge a des relations incroyables avec l'hôpital de Briançon, et se bat pour toujours pouvoir avoir cet accès. Donc ce monsieur, il est parti, il a fait plusieurs jours d'hôpital à l'hôpital de Briançon, sans parler un mot de français, il a été traité. Enfin, ça, c'est fantastique, quoi, parce qu'il aurait pu... clairement, il était pas loin de devoir être amputé, quoi. C'était vraiment hyper sérieux. Mais y a plein de personnes qui, de nouveau, demandent les numéros, veulent rester en lien. Donc au début, on fait entre guillemets, cette erreur de prendre plein de numéros. Puis du coup, après, on devient un peu la boussole, une des boussoles, parce qu'on se rend compte qu'on n'est jamais la seule boussole, en fait, il y en a plein. Mais on devient un peu une sorte de phare pour les gens. Mmh. Mais sauf que ça demande quand même beaucoup de temps quand il y a plein de gens qui ont pris ton numéro et puis que tu n'as pas tout le temps la possibilité d'aider les gens. Alors lui, il est parti à Lille, il se retrouve là-bas, il est à la rue, il te demande où est-ce qu'il pourrait manger. Puis tout d'un coup, il a mal aux dents, il a besoin de voir un médecin. Tout, comment tu fais pour trouver les réseaux pour lui donner un coup de main? Et tout ça, bah, ça t'amène plein de questions en fait sur ta place, sur pourquoi tu fais ça, quelle est la juste réponse à donner aux gens. Du coup, les dernières fois, moi, je prenais plus de numéros de gens, par exemple. Je faisais vraiment ma semaine de bénévolat, mais j'essayais de pas aller dans ce plus, quoi, parce que je savais que derrière, j'arriverais pas aussi, parce que nous, on était en train de créer l'asso ici, donc j'avais des personnes dont je devais m'occuper ici. Et puis que c'est... Voilà, il y a des personnes avec qui j'ai une relation encore très proche dans ces personnes-là, notamment un monsieur qui après était venu habiter chez nous, parce qu'on l'a hébergé. Évidemment que eux, ils ont toujours mon numéro, mais c'est des amis maintenant. Enfin, ouais. C'est plus la même chose. Mais c'est aussi pour ça, voilà, que j'ai voulu aller faire cette formation à Lyon, parce que il y avait trop de questions qui se baladaient dans ma tête et que il y avait la création de cet asso et que ça commençait vraiment. Enfin. Je dis souvent, moi, dans cette période, j'ai vraiment eu l'impression que le monde rentrait dans mon atelier. Je commençais vraiment à me questionner de savoir si je voulais vraiment continuer la céramique. En même temps, j'ai toujours continué, mais à côté. Est-ce que je voulais aller vers cette professionnalisation? Et à ce moment-là, bah, y avait trop de choses qu'il fallait que j'apprenne. Donc, et cette formation à Lyon, c'était un DU et c'était très multidisciplinaire. Donc, ça permettait de faire un peu une sorte de panorama un peu de la question, et ça a été une super entrée, quoi, et dans laquelle j'ai fait des super contacts aussi pour la suite, notamment Julia Brilan, qui est restée une amie très très proche et qui intervient chaque année dans le festival maintenant, qui est juriste du droit d'asile. C'est aussi des endroits où on rencontre des personnes qui se posent plein de questions similaires, quoi.
Donc ça t'a aidé à un peu structurer la relation d'aide.
Ouais, complètement. Okay. Structurer la relation d'aide, comprendre aussi comment ça marche l'accueil en France d'un point de vue institutionnel. Qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce que c'est la prise en charge des MNA. Je me souviens très bien, la première session, c'était vraiment sur la question des mineurs non accompagnés, qui est un énorme sujet de l'accueil et qui en plus est devenu complètement instrumentalisé. En général, quand les gens sont inquiets qu'on accueille des gens, ils nous demandent « il y aura des MNA ?» Parce que c'est devenu, voilà, c'est devenu la figure du jeune délinquant, quoi. Alors que, bon, je connais plein de jeunes qui ont été reconnus mineurs et qui maintenant travaillent, enfin voilà, qui sont juste des jeunes qui font leur vie, quoi.
Et bah, t'as commencé un peu à l'évoquer, mais est-ce que tu veux dire un mot de l'association Passerelle?
Ouais.
À quoi elle sert?
On a créé cet asso en 2019 parce qu'on voulait prendre un peu notre part à ce défi d'accueil, autant au niveau français qu'au niveau européen. Et qu'il y avait un groupe de personnes, du fait du festival et du fait qu'à Diolfi, il y a plein de gens étonnants, qu'il y avait tout un groupe de gens qui s'intéressaient à la question migratoire, qui avaient envie de faire quelque chose. Bon, c'était les années qui ont suivi quand même ce que je déteste, qu'on a appelé la vague migratoire, mais en tout cas quand même un moment où il y a eu beaucoup de gens qui ont eu besoin de migrer du fait des différentes guerres, notamment la guerre en Syrie, mais aussi des Afghans, bon, voilà. Et donc nous, on avait cette idée de, bah, on est dans un village, oui, de 3500 habitants, mais peut-être qu'on peut, à notre échelle, c'est-à-dire avec un petit nombre de personnes, faire des choses. Et l'idée dès le départ, c'était d'ouvrir une maison, mais sauf qu'on était des gros rêveurs, qu'on savait pas comment faire, qu'on pensait que quelqu'un allait nous prêter une maison, puis qu'on hébergerait des gens. Bon, ça s'est pas passé comme ça. Mais au fil des années, on a quand même fait des premiers accueils en louant des apparts. Et puis, parallèlement à ça, on a structuré vraiment cette idée d'aller vers une maison. On a réussi à attirer des personnes qui sont venues avec nous dans le mouvement et qui avaient des vraies compétences de montage de projet. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, voilà, on a acheté une maison avec tout plein de gens, tout plein de sociétaires, dans le cadre d'une SCI coopérative, d'une coopérative immobilière. Donc il y a plus de 600 personnes qui ont mis des parts sociales et qui nous ont permis d'acheter cette maison sur la route à la sortie de Diolfi direction Nyons, la maison Lucette.
Je t'ai demandé, je vous ai demandé de venir avec un livre dont vous aimeriez bien nous parler. Et vous avez choisi le roman de Sally Hayden, Bienvenue aux Enfers. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de nous parler de cet ouvrage ?
Ça, c'est vraiment parce que il y avait cette question dans cette interview de l'engagement. Et alors là, pour le coup, Sally Hayden, c'est une journaliste complètement hallucinante qui a mené une enquête pendant plusieurs années sur ce qui se passe en Libye, et notamment les... Je sais même pas comment les appeler, les prisons vraies, fausses, informelles, voilà, camps d'enfermement, tout ce qu'on veut, surtout des lieux de torture. Et elle a été en contact régulier pendant des mois avec des personnes qui sont dedans, parce que quand même pas mal ont leur téléphone, et où elle reçoit des appels à l'aide. Et c'est vraiment ce truc qui est un peu pareil avec des gens qui travaillent sur les sauvetages en Méditerranée, par exemple, c'est-à-dire à partir du moment où son numéro circule, on devient en fait un espèce de réceptacle de la tragédie, quoi. Et elle, elle s'est complètement engagée là-dedans, à se dire, mais ces personnes, il faut qu'il y ait quelqu'un pour porter leur voix, quoi. Et elle a écrit cet énorme bouquin, gros bouquin rouge, là, c'est une espèce de... c'est un pavé qui raconte, en fait, qui raconte cette mécanique, qui raconte qui sont les personnes qui sont dans ces camps, qui est aussi, qui se fasse de façon chronologique, c'est-à-dire qu'il y a plein d'étapes, puisqu'il y a eu plein de moments un peu phares dans l'histoire de la Libye et de ces camps. Aussi en lien avec la question des ONG, qu'est-ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles peuvent faire, qu'est-ce qu'elles peuvent pas faire dans ces lieux. Donc j'avais, voilà, je voulais mettre en avant ce livre parce que ça s'appelle Bienvenue aux Enfers. Et c'est un bouquin qui a été multiprimé, traduit en français finalement, donc, ce qui nous a permis à nous de le lire, et je le recommande. Après, c'est sûr, faut être un peu motivé, hein, pour lire ce bouquin. C'est juste un peu innommable, certains passages.
Oui, c'est une forme d'engagement, mais qui, pour le coup, là, est totale.
Complètement. Et elle, je pense que cette nana n'a pas éteint son téléphone jour et nuit pendant je ne sais pas combien de temps. Enfin, mais ça veut dire que c'est documenté, un lieu où les droits humains, enfin, les deux mots droits humains n'ont même plus lieu d'être. Et où des personnes sont chosifiées depuis des mois, des années. Et encore pire que chosifiées, utilisées pour gagner de l'argent, puisque les gens sont torturés pour qu'on les appelle leur famille et que les familles payent pour qu'ils puissent être libérés. Donc c'est-à-dire que ouais, c'est un moment où on se dit je ne peux pas ne pas entendre cette voix et je dois le faire entendre. Et en ça elle a quand même réussi, parce que ce livre a eu quand même beaucoup de succès, il y a eu beaucoup de presse, elle est intervenue dans différents lieux en très haute place. Donc ça veut pas dire que le problème est résolu, mais en tout cas ces personnes, certaines ont pu être entendues, et elle en a d'ailleurs rencontré en Europe certains. Le livre finit sur certaines personnes qui ont fini par pouvoir être libérées, arriver ici et obtenir l'asile en Europe. Donc il y a tout un processus, quoi.
Si on reprend un peu le fil du récit, un des moments qui m'a fait vous connaître a été la diffusion un soir au tiers-lieu du parc du documentaire Sonneur que vous avez co-réalisé avec votre sœur Lucie Peterman, sur le projet de pipeline que Total a construit en Ouganda. Un projet destructeur par sa nature extractiviste et polluante, mais aussi parce qu'il a conduit à l'expulsion d'habitants et d'habitantes qui vivaient sur les lieux des futurs puits de pétrole. De quelle manière l'écologie irrigue-t-elle aussi vos engagements ?
C'est vrai qu'aujourd'hui, mes engagements au quotidien, dans ma semaine, clairement, la question migratoire a pris complètement le dessus, c'est clair, même si je suis toujours complètement convaincue du fait que, et cet été est là pour nous le prouver, que la question écologique, elle est première, en fait. En tout cas, elle devrait l'être, prioritaire. Mais là, c'est vrai qu'il y a quelques années, maintenant ça fait 3 ans qu'on est parti, si je ne me trompe pas, ma sœur souhaitait m'emmener à nouveau lors d'un voyage sur le continent africain, et je lui ai dit, écoute Lucie, vu que j'avais appris à faire de la radio à radio là et que je savais utiliser un enregistreur à peu près, j'ai dit à Lucie, écoute, ce qui me plairait vraiment pour faire un voyage, aussi dans l'idée de quand on prend un vol, parce que ça bouffe du pétrole, que ce soit utile à quelque chose, de faire un si grand voyage, j'ai dit, écoute, est-ce qu'on pourrait pas aller en Ouganda, et je voudrais rencontrer les personnes qui sont déplacées par le projet ICOP, donc cet horrible projet de Total qui est en cours, hein, et qui est d'ailleurs... l'ensemble des puits ne sont pas forés, enfin voilà, ils ont quand même toutes sortes de problèmes, notamment le fait que... On le dit pas assez, mais c'est une réalité parce que c'est vraiment un angle de lutte. Il y a quand même pas mal de banques qui, petit à petit, retirent leurs investissements dans l'énergie fossile et notamment sur le projet des COP, parce que c'est quand même un scandale, notamment dans le fait que, après, l'Ouganda a signé et a validé, mais notamment le fait que Total fort dans un parc national, un des plus vieux parcs nationaux du continent africain, quoi. Ce qui est quand même hallucinant, quoi. Bon, voilà, il y a beaucoup d'argent à gagner, j'imagine, pour l'État ougandais. Encore que, puisqu'on voit très bien que dans un pays comme le Nigeria, voilà, les multinationales sont là et c'est pas pour ça que le pays se développe si bien. Mais c'était l'idée d'aller rencontrer les personnes qui sont déplacées. Aussi parce que je trouve que cette question de la terre, ça fait vraiment écho à plein d'autres combats, quoi. Enfin, les paysans sans terre, les gens qui sont dégagés d'un endroit où juste ils font pousser ce qui les fait vivre. Parce qu'en Ouganda, 80% des gens sont des paysans en agriculture vivrière. C'est-à-dire que oui, ils vendent un petit peu sur le marché l'excédent de ce qu'ils font pousser, mais en fait, ils le mangent en premier temps. Donc, quand tu déplaces les gens, tu leur fais perdre le champ sur lequel ils travaillent et qui les fait vivre. Et donc, voilà, j'ai la chance d'avoir une sœur qui travaille dans la presse et qui, du coup, nous a permis de rencontrer un fixeur là-bas, qui se trouve être un monsieur qui est très engagé dans la lutte contre le projet et qui a lui-même, d'ailleurs, été menacé pour lutter, puisqu'il faut bien comprendre que tout ça se passe jamais sans violence et que quand il commence à y avoir des mouvements de rejet de ces gros projets, les multinationales, même si c'est jamais directement de façon à ne jamais être attaqué ou condamné, même si Total a pas mal de procès sur le dos et est attaqué par des grosses ONG sur des aspects environnementaux, mais aussi sur les aspects de privation de droits humains. Mais en tout cas, il y a des intimidations qui sont faites. C'est clair que c'est pas du tout évident d'être un militant écolo-activiste en Ouganda, clairement pas. Et donc, on a eu la chance à la fois de rencontrer des personnes qui attendaient d'être déplacées, c'est-à-dire qui avaient déjà reçu l'ordre, mais qui étaient encore sur leur terre, notamment ce premier monsieur là qu'on a rencontré vraiment au bout du bout du bout d'une piste avec sa famille. Et ça, c'est vraiment un souvenir qui s'effacera jamais, quoi. Et puis aussi des personnes qui, elles, avaient déjà été déplacées, c'est-à-dire qu'on est allé les voir dans les endroits qui ont été construits pour eux, des sortes de quartiers dans des maisons en dur, très chaudes, dans un endroit sans arbres, et où ils devaient faire pas mal de vélo ou marcher à pied pour trouver leur champ, parce qu'en fait, les champs n'étaient pas... Donc c'est là aussi où on voit pour moi, il y a vraiment une forme d'irrespect de la façon dont les gens vivent. C'est-à-dire de leur dire, alors déjà, je te demande de partir de là où t'es, je te donne des sous pour ça, parce qu'on va forer du pétrole. Mais en plus, je te mets dans un endroit qui ne correspond pas du tout à la vie que tu vivais avant. Et notamment le fait d'être seul dans une maison. C'était des maisons, effectivement, extrêmement modestes, hein, des maisons construites en argile et en branchage. Sauf que cette maison, elle est comme ça toute seule, sur un terrain sur lequel les gens faisaient du maïs, avaient leurs cochons, avaient leurs poules. Et donc les voisins, ils étaient loin les uns des autres. Il y a les champs entre deux. Et non, là, ils étaient dans un quartier de maisons en dur, construites les unes à côté des autres, donc avec les problèmes de promiscuité, les problèmes de s'entendre avec les autres, les problèmes de maladies qui se répandent. Enfin voilà, on change le mode de vie des gens par la force, entre guillemets, quoi. Donc c'était un voyage qui était vraiment incroyable et c'est une chance à la fin d'avoir cet objet radiophonique, quoi. C'est des fois, comme ça, je reviens sur mon ordi, je me réécoute un peu des passages parce que c'est vraiment des souvenirs incroyables, quoi.
Et ça, ce documentaire, il est disponible sur Radio-La.
Exactement.
On peut l'écouter.
Et on peut l'écouter, ça s'appelle « On change pas une équipe qui gagne ».
Et quid de l'engagement politique au sens partisan du terme ? Est-ce que vous êtes syndiqué, encarté, ou est-ce que c'est pas vraiment votre manière de vous engager ?
Eh ben, je suis pas syndiqué. Il faudrait peut-être que j'y pense. Tiens, je vais en parler à mon asso. Non, c'est vrai, je suis pas syndiqué. Et pourtant, la question du droit du travail, notamment du temps de travail, de qu'est-ce que c'est le temps de travail, qu'est-ce que c'est le temps perso, c'est un truc qui nous brasse aussi dans l'asso. Parce que j'ai eu un parcours où je suis passée de bénévole à méga bénévole à présidente à j'ai une allocation qui compense le temps que je passe à l'asso à finalement je suis directrice et j'ai une vraie fiche de poste, contrat et maintenant en plus j'ai la chance d'avoir une collègue. Donc j'ai vraiment fait un cheminement, sachant que moi avant ça j'avais été une seule fois salariée et c'était quand j'étais assistante à l'école d'art, donc dans un contexte ultra institutionnalisé, voilà. Avant ça, entre les deux, j'ai été céramiste, donc autant dire artiste auteur, donc tu es le patron de toi-même, de ta petite entreprise. Donc ça a été un cheminement quand même. quand même de... Et puis il faut aussi apprendre qu'est-ce que c'est être directrice d'asso, quoi. Enfin, moi, j'ai tout appris sur le tas, au-delà de ma formation santé, société, migration que j'ai eue, qui n'est pas une formation pour devenir directrice d'asso. C'est une formation sur les contenus des questions migratoires et de l'accueil, surtout. Mais du coup, j'ai beaucoup, beaucoup appris des personnes qu'on a rallié, quoi, qui ont rallié l'asso, des gens du CA, des gens du bureau, qui sont beaucoup des gens qui ont eu toute une carrière et avec des compétences qu'ils mettent à profit dans l'asso. Et j'apprends énormément de toutes ces personnes-là. C'est incroyable, ça. C'est vraiment... quand je vois où on en est aujourd'hui d'ouvrir la maison, la première personne va arriver très bientôt. Je suis tellement reconnaissante, en fait, de toutes ces personnes qui nous ont rejoints, en fait. Et que c'est chacune de ces personnes qui fait qu'on a réussi à faire tout ça, quoi.
Oui, parce que vous le disiez, ça a été un travail d'apprentissage de comment on structure le... Je faisais référence au fait que la coopérative immobilière, vous en faisiez référence aussi au début, c'était vraie compétence à acquérir.
Ah bah carrément, et puis il y a une exigence de... Il y a quand même une sacrée exigence de sérieux, de gestion, de confiance aussi qu'on donne aux gens. Parce que s'il y a 600 personnes qui ont déposé des parts sociales, c'est qu'ils croient en notre projet et qu'ils croient aussi en notre éthique, et j'espère bien. et tout ça, c'est beaucoup de travail. C'est... énormément de structuration de ce qu'on veut faire pour pouvoir en parler. C'est énormément d'ancrage territorial, mais aussi d'ancrage national, rencontrer plein d'acteurs de l'accueil, plein d'acteurs des questions migratoires, mais aussi du monde coopératif. Enfin, voilà, on a passé des années et on continue à parler à des gens, quoi. C'est vraiment... c'est la base du boulot, quoi. Et de savoir présenter un projet social. C'est vraiment ce qui a été hyper fondateur. Ouais.
Et donc, pas d'encartement.
Non, et je suis pas non plus dans sa partie. Non, effectivement. Effectivement. Et voilà, ouais, ça c'est très... Voilà, ça va être une année compliquée.
Aujourd'hui, la céramique n'est pas non plus votre activité principale. Vous continuez toujours à produire. Comment vous faites le lien entre cette pratique de la céramique et votre engagement militant ?
Vraiment, je dirais pas qu'il y a un lien. Pour moi, il n'y a pas un lien politique dans ça. Il y a plutôt un lien au niveau de ma vie perso, au niveau de mon affectif. C'est-à-dire que j'ai vraiment... besoin de ces moments où je suis dans mon atelier, où je mène mes projets seule, puisque c'est quand même voilà, tout l'inverse du collectif, du coup. Dans l'asso, c'est tout le temps des réunions, c'est tout le temps être avec beaucoup de gens, même s'il y a des moments de solitude, évidemment, où on bosse sur l'ordi et tout, mais c'est quand même tout le temps ce truc de décider ensemble, aller vers un même objectif, emmener les gens avec nous, se mettre d'accord, faire des choix. Bon, voilà, c'est quand même un gros boulot et c'est des fois un peu épuisant. L'atelier, pour moi, c'est vraiment un espace qui me ressource. Un espace à moi, où je fais mes trucs à mon idée et où il y a cette matière que je respecte tellement et puis qui me nourrit tellement, qui me fait tellement plaisir. Donc oui, j'arrive encore à aller à l'atelier, tant mieux.
On approche tout doucement de la fin de cet entretien, mais d'abord, j'avais envie de creuser cette question justement du collectif. Le collectif, le groupe, prend une place majeure dans le récit que vous faites, à deux ou à plein vos engagements. Est-ce qu'ils trouvent toujours leur aboutissement dans le collectif ?
Bah là, clairement, si je regarde les dernières années que je viens de vivre, oui, le collectif est complètement central. Et les jours qu'on vit là, en ce moment, à la Maison Lucette, où on est à fond sur finir le premier appartement, enfin le premier îlot de vie par les travaux participatifs, enfin, il y a un truc qui est franchement magique, hein. Moi, j'arrive parce que le matin, j'étais sur mon ordi à bosser sur un truc. J'arrive en fin de matinée à la Maison Lucette. Il y a des gens qui sont là en train de couper du parquet, peindre des portes, poncer. Et il y en a, je ne les connais même pas. Je ne les connais même pas alors qu'ils sont là pour la Maison Lucette, qui est le projet de l'association Passerelle, l'association que j'ai co-créée. Voilà. Mais c'est juste qu'en fait, c'est ça, quoi. Il y a des liens, il y a des ponts, il y a des gens qui leur ont parlé d'eux et ça leur plaît. Et du coup, ils viennent. Il y en a qui sont venus de loin pendant l'été, là, vu que c'était leurs vacances, ils sont venus passer plusieurs jours sur le chantier. C'est absolument magique, quoi. Et là, c'est clair que là, on voit ce que c'est la force d'un groupe, quoi. Parce que...
Matériellement.
Matériellement, exactement, dans le réel. Et c'est rigolo parce que cette semaine, il y a le monsieur qui nous a vendu cette maison qui est venu. c'est notre premier fan sur les réseaux. Il est absolument enthousiaste de ce qu'on fait. Et là, il est venu en visite et il m'a encore écrit aujourd'hui, mais il était épaté de voir là où on en est, en fait, parce qu'il connaît bien l'état de la maison. Il savait qu'il y avait beaucoup de travaux à faire. Alors, nous, on sait aussi tout ce qui reste à faire, hein, c'est énorme, mais sur la partie sur laquelle on se concentre pour les trois premiers accueils, oui, c'est déjà magique, quoi.
La maison Lucette, mais plus globalement, je me posais la question, et ça rejoint un peu le livre que vous nous avez présenté. Mm. Je me posais la question, comment on peut faire, on travaille à concrètement faire vivre la voix de ceux qui en ont pas, en tout cas ici. Mm. Et quelle forme d'action, quelle forme d'interpellation ça demande, c'est un choix d'accueillir et d'héberger ces personnes. Est-ce que c'est ce que vous avez choisi? Est-ce qu'il y a d'autres formes à côté qui doivent exister, en fait? Mm-hmm. Est-ce que cette forme peut exister, mais à côté d'autres, en fait, parce que d'autres existent?
C'est clair que la question de la voix, justement, des personnes, c'est un truc qui est hyper central et qui est tout le temps un questionnement, notamment par rapport au festival. Sur les murs ne sert à rien, on essaye toujours, chaque année, d'avoir des contenus qui sont issus de personnes, ce qu'on appelle les personnes concernées. Voilà, c'est un terme un peu de travail social, c'est-à-dire les premiers concernés, quoi. Et là, cette année, la lecture d'ouverture, Toufat Moutaré, c'est une femme qui a elle-même vécu l'exil, qui a écrit un livre magnifique. Le film qui est montré aussi en ouverture sur cette femme afghane qui cherche à migrer depuis l'Iran vers l'Europe, elle s'est elle-même filmée pendant 5 ans. Après, ça a été co-réalisé par un réalisateur iranien, mais elle est première actrice de sa vie, quoi, de sa vie et de ce film, du coup, et de son film. Et en même temps, je sais bien que c'est tout le temps un travail et c'est tout le temps un truc à remettre, justement, sur l'établi, de se dire, on est là et on veut défendre, on veut essayer de faire porter la voix et les droits des personnes exilées. Mais comment est-ce qu'on essaye de pas être, de pas les remplacer, de pas être à l'avant de la scène? C'est tout le temps une question. Et aussi avec les personnes qu'on accompagne directement, c'est-à-dire les gens avec qui on est en relation, on va être en relation au quotidien dans la maison. Comment on respecte leurs choix? Comment est-ce que on les laisse acteurs et actrices de leur propre destin ici en France, malgré tout ce bordel des papiers, de la situation administrative, du juridique, donc du fait que oui, on est en possession de certaines notions et de certaines comment on essaye de pas s'enfermer dans cette notion de sachant, surtout, parce qu'en fait, ce sont eux les premiers à avoir vécu ce que c'est la migration, donc c'est plutôt eux qui ont des choses à nous apprendre, et comment est-ce qu'ensemble, on essaye d'avoir une action sur leur situation, et dans le sens que eux souhaitent. Mais c'est vraiment... j'ai l'air de faire comme si je savais, mais c'est tous les jours un travail, ça. Et d'ailleurs, dans les mouvements d'accueil des personnes exilées, que ce soit dans la Fédération des acteurs de la solidarité, par exemple, qui est un très grand organisme qui relie plein d'assauts en France, ils ont tout un travail sur ce qu'on appelle la participation, mais aussi dans le mouvement Emmaüs, avec ce festival C'est pas du luxe, qui est un festival qui présente des contenus artistiques faits par les personnes bénéficiaires elles-mêmes. C'est comment on prend sa place, quoi. On se positionne. Et je vais juste parler d'un bouquin que je viens de finir cette semaine, que j'ai lu en 4 jours, et qui, de ce point de vue, mais c'est vraiment une bénédiction. Il faut absolument lire ce livre. Ça s'appelle « C'était ça ou mourir ». Et c'est d'un monsieur haïtien qui vit maintenant au Québec et qui raconte sa migration. Il dit que c'est une fiction, mais on sent bien que le bouquin est largement inspiré de sa route, mais c'est une fiction. Et j'ai lu un certain nombre de bouquins sur les questions migratoires, et c'est un des plus beaux livres que j'ai lu, et qui est d'une, pour nous, à la fois... j'ai le bonheur de savoir qu'il va être traduit en 20 langues, donc il a un succès éditorial incroyable. Et c'est une très bonne nouvelle, parce qu'en fait, ce bouquin vaut 1000 conférences sur la question migratoire, parce que c'est la force de la narration, c'est la force de la fiction, c'est la force de la voix qu'a cet homme, et le regard qu'il porte sur cette route, sur les gens qu'il a perdus sur cette route, qu'il a rencontrés, sur les aidants, sur les autres exilés, sur les différentes frontières qu'il a traversées, sur ce système, et même pour les gens qui sont nous des acteurs de l'accueil, c'est extra. J'ai eu des pages, c'était comme si comme si j'avais envie d'envoyer certaines pages à mes profs du DU, ou tellement c'était, il y a quelque chose de limpide dans ce qu'ils racontent sur nous, les questions qu'on se pose. Et ça, c'est vraiment magique, quoi.
Ça, c'est un livre tout neuf, parce qu'il vient
et est sorti il y a 2 semaines. Et je l'attendais à Sweet Gambad, et ils me l'ont fait venir.
On écoute tout de suite L'inconnu en personne de Bertrand Belin sur Radio La.
Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, d'Adam, mais j'entends leurs pas dans le désert. J'entends leurs pas dans la prairie. En ville, sur une place, dans l'allée des cimetières, dans l'allée des grandes surfaces, à l'appel du printemps, je les entends se faire des promesses de hauteur, de souplesse, d'argent. Je les entends faire des prières, souvent pour eux-mêmes, parfois pour leurs congénères. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a un au bord du Nil, il y en a une dans un cul-de-sac, un autre accroupi dans la flaque, le doigt dans une anémone, le rire qui carillonne, la face qui rayonne, une autre au bout de ses efforts, emporté dans la mort, l'amour, le carbone. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs, dedans. Il y en a une aux quatre vents qui regarde l'horizon. Il y en a deux sans solution parmi les renoncements. À l'âge de fer, il frissonne à l'air du pétrole. Lassé des belles paroles, il frissonne. Je n'ai pas connu en personne les inconnus en question, ni après, ni avant, ni d'Ève, ni d'ailleurs dedans.
C'est vous qui avez choisi cette chanson, Chloé Peterman. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ?
Ah, cette chanson, j'ai découvert Bertrand Belin il n'y a pas très longtemps, il y a peut-être une année et demie, par l'intermédiaire de mon amoureux. Et cette chanson, c'est une chanson pour moi qui est splendide sur les personnes exilées. Déjà, le titre, L'inconnu en personne. Bah moi, il se trouve que voilà, il y a plein d'inconnus qui sont plus devenus des inconnus, qui sont devenus des gens que j'ai connus, justement. C'est-à-dire que le fait d'entrer dans des lieux d'accueil, bah ça fait que la rencontre, elle est possible. Et qu'on n'est plus dans cette figure d'une personne dans une file d'attente. Non, on est dans rencontrer quelqu'un avec qui a son passé, qui a son présent, qui a des souhaits, qui a un avenir, qui a des choses qu'il n'aime pas, qui peut être désagréable, et il a le droit d'être désagréable. Et cette chanson, elle est, bah, c'est les textes de Bertrand, c'est la force des textes de Bertrand Belin. C'est-à-dire que c'est sont que des choses évoquées, mais en même temps évoquées tellement, tellement justement, quoi. Moi, j'y vois plein de... Moi, c'est les images dont ils parlent font extrêmement lien avec les choses que j'ai lues, que j'ai vues, des passages de films, des personnes que j'ai rencontrées. Donc, je trouve qu'elle est hyper forte, quoi.
C'est déjà le moment de nous quitter, mais avant, dernière question, je vous la laisse là, vous répondez comme vous voulez. Chloé Peterman, qu'est-ce que vous souhaitez laisser au monde ?
Un peu plus d'empathie et essayer de rester dans le dialogue.
Un grand merci, Chloé Peterman. Et merci aussi à Lotaro qui était à la technique ce soir. Merci à vous, auditeurs, auditrices, d'avoir partagé un bout de chemin. C'était Marie Kévin et les balades du soir. Tous les épisodes du podcast sont à retrouver sur le site de Radiola, radio associative locale du pays de Dieulfi-Bourdeaux, qui parle d'ici, mais qui va bien au-delà. À très vite, portez-vous bien.